Dans L'Argent de Poche, on tend le micro à des comédiens et des comédiennes pour qu'ils nous racontent les galères, les débrouilles de leur début. Certes, aujourd'hui, ils sont riches et célèbres.
Oui, enfin pas
mais
tous.
Mais hier, ils ont dû faire 1000 petits boulots avant de rejoindre le haut de l'affiche.
Alors que s'ils avaient eu l'application gratuite Omax pour moi, ils auraient pu gérer leur argent facilement en réunissant tous leurs comptes et toutes leurs cartes au même endroit. Et ils auraient pu aussi augmenter leur pouvoir d'achat avec du cashback dans les plus grandes enseignes, profiter du zéro frais à l'étranger et payer avec leur téléphone ou leur montre connectée.
Ok, mais quand certains ont commencé, il n'y avait même pas le Bebop.
L'appli Omax pour moi vous souhaite une bonne écoute de L'Argent de Poche.
Auteur.
L'Argent de Poche.
J'ai plein de projets en ce qui te concerne.
L'Argent de Poche.
Tu veux pas me prêter 1000 balles ?
C'était quoi la question ?
Qu'est-ce que tu sais faire ?
Je gagnais ma vie en travaillant dans un magasin.
L'Argent de Poche, les grands acteurs aussi ont commencé petit.
C'est un visage que l'on connaît très bien, celui de Jean-Pierre Darroussin. Pour l'avoir aperçu dans les comédies Un air de famille, Marius et Jeannette, Le cœur des hommes, Sur les planches ou plus récemment dans la peau du directeur de la série Le bureau des légendes. Pour ce nouvel épisode de L'Argent de Poche, le podcast de Sofilm qui revient sur les petits boulots des grands acteurs, le comédien nous raconte une autre histoire, que sa pudeur et son penchant pour le collectif avaient peut-être caché. Une histoire faite de bandes, de petits boulots, voire même de petites combines qui commencent au milieu des travailleurs dans la banlieue parisienne des années 50.
L'Argent de Poche.
L'Argent de Poche.
Courbevoie des années 50-60, c'était la banlieue, pas très lointaine de Paris. Il y avait encore les vieux trains de pendant la guerre qui allaient vers la gare Saint-Lazare. On y allait de temps en temps, pas très souvent. Il y avait des marchés, il y avait pas mal de terrains vagues. J'ai des souvenirs comme ça, par exemple, des voisins, des voitures dans les rues où les gens réparaient leurs voitures. Des voitures qui étaient toujours sur des criques et des capots ouverts. Et ça commençait pas mal par de la mécanique, tout ce qui se passait autour de moi. Il y avait des petits ateliers, des gens qui réparaient les machines à écrire, des gens qui réparaient des motos, des mobilettes. J'habitais dans une petite allée, c'était que des petits pavillons, mais très petits. Vraiment très petit. Chez moi, ça faisait, par exemple, 18 mètres carrés. C'était un petit pavillon de 6 mètres sur 3. Donc, vous voyez, c'était petit, avec les toilettes dans le jardin. Mais il y avait quand même un jardin. Il y avait des jardins autour. Puis, il y avait l'école. Donc, le fait de marcher tous les matins en culotte courte, parce qu'il n'y avait pas encore le prêt-à-porter et que donc les pantalons, c'était cher. Il fallait les faire sur mesure. Donc, on avait des culottes courtes pour pas user les pantalons aux genoux. Et parfois, on avait droit à ce pantalon qu'on appelait le pantalon du dimanche. Je n'étais pas un enfant qui se projetait beaucoup dans l'avenir. Je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses à découvrir sur le moment. Je pense que j'étais assez naïf et je n'avais pas tout à fait l'idée qu'il fallait grandir. Tout ça. Enfin, c'était assez en dehors de moi. Mon père était étameur, m'apprenait un petit peu à bricoler, à limer, à faire de la soudure, à faire des choses comme ça. Son atelier, quand j'étais petit, n'était pas très loin, donc j'y étais souvent. Je n'ai pas de souvenir de m'être dit « je vais devenir quelque chose ». Mon destin était ouvert, je dirais. Ma première rencontre avec le théâtre, c'est quand je suis en cours élémentaire, deuxième année. J'avais une institutrice, qui s'appelait Madame Luquet, qui avait décidé de nous faire travailler le malade imaginaire. Donc on apprenait des scènes du malade imaginaire, et je me suis retrouvé à jouer le rôle d'Argan, le rôle du malade imaginaire. Ça s'est pas mal passé, on a un petit succès comme ça, et donc on a commencé à tourner de classe en classe, et on jouait quelques extraits du malade imaginaire, dont la fameuse scène du poumon, vous dis-je. C'est mon premier contact. Bon, ça a été le seul pendant assez longtemps. C'est vrai quand même, il y a eu une petite étincelle, quelque chose qui s'est passé, parce qu'après, dès qu'il a été question dès que j'entendais parler de quelqu'un qui voulait faire du théâtre ou une possibilité à droite à gauche, je m'inscrivais, je me mettais sur les rangs, je disais ah bah tiens moi je voudrais bien en faire. Donc après, même une fois que j'étais au lycée, je me suis mis à vouloir donner des cours de théâtre. je pensais certainement avoir une certaine compétence dans le domaine. En tous les cas, c'était histoire d'organiser un peu, d'essayer de monter. C'était toujours un peu, c'était quand même du Molière, c'était les femmes savantes, parce que j'avais repéré à la bibliothèque du lycée l'avant-scène, et sur l'avant-scène, il y avait marqué le texte, mais avec à côté les déplacements et la mise en scène des acteurs, ils avaient fait ça. Et donc, je me suis dit, bah, c'est bien, on a la mise en scène là, il suffit de faire pareil. À l'heure de la cantine, j'avais réussi à négocier la possibilité d'aller dans une classe. Bon, bah, forcément, les professeurs sont toujours tout à fait enthousiastes à l'idée que des élèves aient des initiatives de ce genre.
L'argent de poche ?
L'argent de poche.
Gamin, j'ai toujours eu l'idée qu'un jour l'argent, j'espérais qu'un jour ça disparaîtrait et que on n'aurait pas besoin d'argent. C'était mon utopie d'enfant. D'abord, quand vous êtes élevé dans 18 mètres carrés, vous vous dites que ce serait quand même bien que s'il n'y avait pas d'argent, puisque vous sentez bien que de ne pas en avoir, ça, c'est un problème. Donc, de supprimer ce problème, ça, c'était pas mal. Et évidemment. Le fait de ne pas avoir trop les moyens, ça, même si vraiment mes parents n'étaient pas du tout dans ce genre-là, mais ça crée quand même un discours qui est que les gens qui en ont sont toujours un petit peu suspects, puisque eux, ils profitent de ceux qui n'en ont pas. Il y a quelque chose d'immoral, le fait de posséder de l'argent en excès. Voilà, j'ai toujours été assez inconséquent, ça ne m'a jamais posé de problème, je me suis toujours foutu d'avoir de l'argent ou de ne pas en avoir. Je travaillais toujours avec mon père, après le lycée, et c'est à ce moment-là que je commençais à chercher à gagner ma vie, donc j'ai fait des tas de petits boulots, pas très intéressants, comme j'avais mon permis de conduire, que j'ai passé vraiment tout de suite dès que j'ai eu 18 ans, donc je pouvais être chauffeur, livreur, tout ça, je faisais des tas de choses comme ça. Le seul apprentissage, je dirais que c'est la rencontre avec le monde du travail. Quand on travaille à la Défense, au 22e étage d'une tour, dans les bureaux, la population qui est là est très sérieuse, par exemple. C'est marrant à voir comment les gens sont très concernés par leurs tâches. Quand on est jeune, on se dit, mais c'est dingue, hein, qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils sont si sérieux à faire des choses aussi répétitives et aussi sans intérêt? Alors évidemment, on peut pas comprendre à 17 ans qu'on a beaucoup d'intérêt à remplir des papiers de factures pour des quantités de tant d'acier moulé pour les égouts, pour tant de plaques vendues en Argentine, tant de plaques machin, remplis ça, tout ça, et c'est très sérieux. Il faut vraiment en vendre beaucoup, des plaques d'égouts, et c'est sûr que à 18 ans, vous vous dites, mais qu'est-ce que... c'est pas possible, on va pas passer sa vie à ça. Évidemment, quand on est jeune comme ça, on a toujours envie de vivre un petit peu au-dessus de ses moyens, et donc on frise, on est un peu en marge, on frise la délinquance. Il y a toujours des petites arnaques, des machins, trucs comme ça, pour arriver à avoir un niveau de vie supérieur. À l'époque, il y avait un truc qui se faisait pas mal, c'était les traveler chèques. Vous achetiez des traveler chèques, vous faisiez comme si vous les étiez fait voler. Comme il n'y avait pas encore plein de caméras dans les banques, vous alliez dans une autre banque, vous déclariez vos traveler chèques volés, puis en fait vous allez les tirer ailleurs encore. Donc ce qui fait que comme ils étaient remboursés, au lieu d'avoir 400 francs, vous en avez 800. Donc vous aviez gagné le double de ce que vous aviez pour partir en vacances, ça doublait l'argent de poche. Voilà. Il y avait des petites arnaques comme ça, ouais.
L'argent de poche.
L'argent de poche.
J'avais une jeune fiancée qui connaissait des gens, qui connaissait des gens, qui connaissait des gens qui faisaient du théâtre à Puteaux. Et à Puteaux, c'était en fait le début de Florent qui avait le conservatoire de Puteaux. Assez vite, je me suis fait des copains dans cet endroit. Moi, j'ai commencé effectivement à abandonner mes camarades de la banlieue où on vivait ensemble dans un pavillon à Colombes. Et je suis devenu de plus en plus parisien, partager des appartements avec des camarades du cours Florent et puis après de la rue Blanche, puisque assez vite j'ai passé le concours d'entrée à la rue Blanche puis j'ai été reçu. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'ils m'ont pas beaucoup apprécié là-bas. J'ai eu des mauvais bulletins et j'étais sur le point d'être envoyé même. Le directeur, M. Jean Meyer, à l'époque, avait écrit sur un bulletin « Élève peu doué à décourager ». Alors j'essayais de faire autrement, parce que c'est vrai que ça ne m'intéressait pas trop. Mais en même temps, j'ai quand même rencontré des gens, comme Catherine Fro, par exemple, qui était aussi à la Rue Blanche avec moi. On a commencé à travailler ensemble. Et après, on a passé le concours du conservatoire et on est rentré aussi au conservatoire ensemble. Quand j'ai eu la chance de rentrer dans cette école du conservatoire de Paris qui vraiment a été à ce moment-là un cocon qui nous a vraiment permis de faire des tas d'expériences, des tas de rencontres formidables, de créer des spectacles et aussi justement vers la fin de qui m'a permis d'intégrer cette troupe qui était la troupe du Chapeau Rouge qu'avait créé Catherine Fro et Pierre Pradinas, et quand on était à la Rue Blanche, et ça a continué, et ils ont monté les spectacles, et il y avait un lieu après à Avignon, donc qu'on faisait vivre, et moi je les ai rejoints assez vite, et on a fait beaucoup de créations ensemble. On a surtout, ce qui était formidable, c'est qu'on travaillait tous les jours. Donc, on a fait des progrès. Et puis, voilà, petit à petit, au bout de 8 ans, quand même, de travail, je dirais presque vraiment quotidien, ça s'est essoufflé. Et une fois que la troupe s'est disloquée, et que je suis parti vivre à la campagne, en essayant de faire autre chose, voilà, j'ai eu une période de retraite. Et pendant ma retraite, eh ben, je me suis mis à lire, à faire des tas d'activités, tout ça, et à me compléter. J'avais pas eu le temps de faire des études. Enfin, si, le conservatoire, c'est des études. Mais disons que ça m'a bien aidé, cette période de retraite, pour aller fouiller un peu partout dans les auteurs, les textes. Et puis, bon, je me suis vaguement inscrit à un moment donné pour une école qui formait à un truc de reconversion pour être instituteur. Mais il se trouve que très vite, j'ai fait des essais pour mes meilleurs copains, que j'ai été pris, et que donc j'ai abandonné les écoles normales pour être instituteur, pour revenir faire mes meilleurs copains. On a grandi, on s'est structuré, et notre culture s'est faite dans un moment d'histoire où l'avenir était peut-être, ne semblait pas si bouché que ça. Il n'était pas si triste que ça. Moi, des fois, ça me fait un peu peur. Je vois beaucoup de gamins, de jeunes, tout ça, qui regardent des films de science-fiction. Il y en avait très peu. Bon, il n'y en avait pas beaucoup d'images, on n'avait pas beaucoup d'écrans, on n'avait pas beaucoup de trucs comme ça. Mais malgré tout, les films qui racontaient des histoires d'aventures, c'était des aventures qui se passaient plutôt dans le passé, des trucs de chevaliers ou des trucs de cow-boys, des choses comme ça. Oui. Et où il y avait des trucs qui faisaient peur, il y avait des monstres, il y avait des choses comme ça. Exactement. Mais c'était dans le passé. Je vois que comment on est formé dans la science-fiction à un monde dans lequel on n'a pas du tout envie de vivre. Il n'y a pas beaucoup de films de science-fiction où on se dit « Oh, ce monde-là, oh, vivement que ça arrive !» Jamais, c'est toujours atroce, c'est toujours des guerres, des tyrans, la technologie. On ne voit pas d'ailleurs comment c'est jamais fabriqué, mais le résultat de la technologie est toujours une catastrophe. J'ai du mal à imaginer comment un enfant se structure avec cette perspective qui est quand même extrêmement bouchée. Alors que nous, vraiment, quand je dis qu'à notre âge, on a encore toujours plein de projets, c'est vraiment parce que on y croit que c'est possible, quoi. Nos 17 ans sont pas tellement partis, finalement. Ces 17 ans sont toujours assez vivants en nous.
L'argent de poche.
L'argent de poche.